RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Radio Rythme Bleu, il est 17h45, info soir, c'est avec vous Lionel Sabot.
4 blessés, dont un sérieusement touché, c'est le bilan d'un accident à la mi-journée dans les locaux de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Un drame familial jugé par la cour d'assises de Nouvelle-Calédonie, c'est un homme de 38 ans qui comparaît pour avoir tué sa compagne en juillet 2022 à Nouméa. Les partenaires sociaux rencontrent Christopher Gigès depuis 15h. Il s'agit de poursuivre le travail engagé sur le chômage après les émeutes du mois de mai 2024. Le conseil municipal junior de Nouméa faisait sa rentrée ce matin. Les 42 jeunes élus étaient réunis à l'hôtel de ville pour une matinée de travail et d'activité. Et puis le sport et le football, les J-2 avant la demi-finale des qualifications océaniennes pour la Coupe du Monde. La sélection calédonienne est enfin au complet en Nouvelle-Zélande. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal. À la une ce soir, cet accident donc qui s'est produit en toute fin de matinée à l'Université de la Nouvelle-Calédonie sur le campus de Nouville. Les faits se sont produits juste avant midi au niveau d'un patio près de l'amphi 80 au niveau du bâtiment Sigma. L'association Handijob y organisait une vente à destination des étudiants handicapés lorsque l'accident s'est produit. Accident vraisemblablement causé par un réchaud à gel qui a fait 4 blessés. Écoutez le commandant Géraldine Bourgoin, directrice des services d'incendie et de secours de la ville de Nouméa.
Tout simplement, il y a une manifestation qui était organisée par l'université avec un prestataire en charge d'un buffet, d'un cocktail. Et au moment de réchauffer les plats, il y a eu un accident, on pourrait appeler presque domestique, où un liquide pour pouvoir réchauffer le plat s'est enflammé. Et donc, 4 personnes de l'association qui étaient en charge des repas ont été blessées au moment de cette inflammation. On a un blessé grave de par l'étendue des brûlures, mais pas de pronostic vital engagé, et 3 blessés légers qui ont été également brûlés légèrement sur le corps.
C'est pas une bouteille de gaz qui a explosé?
Du tout, voilà. Ni intentionnel, ni une bouteille de gaz. Vraiment un accident, malheureusement, j'ai envie de dire classique, mais enfin, voilà, un accident, malheureusement, un peu de la vie courante qui s'est produit. Donc nous, on a engagé 2 ambulances au départ, ainsi qu'un fourgon incendie, et 2 officiers au niveau du commandement. La police nationale, avec l'aide de la gendarmerie, a engagé aussi des moyens conséquents pour pouvoir réaliser un périmètre de sécurité, vu qu'à l'origine, on partait sur une explosion et ce dispositif a été rapidement levé. Au moment où c'est arrivé, je pense qu'effectivement, les personnes sur place ont eu très peur. Après, ça reste l'université avec des jeunes, donc c'est normal, effectivement, que nous, derrière, des moyens sont mis en place. Voilà, le temps qu'on comprenne ce qui se passe et qu'on détermine ce qui se passe surtout, voilà.
Mais cet accident, qui est donc pas dû à l'explosion d'une bouteille de gaz, rappelons-le, a suscité une certaine émotion au sein de l'université où les étudiants étaient nombreux à ce moment de la journée. Écoutez, Sylvian Raffarartig, responsable de la communication à l'Université de la Nouvelle-Calédonie.
Pas mal d'émotions sur le campus parce que c'est quand même un incident relativement grave. Le dispositif de secours a été assez impressionnant aussi, donc c'était de l'émotion. En tout cas, bon bah là, tout est rentré dans l'ordre. Il n'y a pas eu d'interruption de cours. On n'a aucun dégât matériel. L'incident a eu lieu juste avant midi. Et donc, tout a été nettoyé, tout est terminé. Mais en tout cas, on souhaite vraiment un prompt rétablissement aux blessés. Et on leur apporte notre soutien et on sera à leur écoute pour les accompagner du mieux qu'on peut.
Oui, j'ajoute qu'une enquête a bien évidemment été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet accident qui a donc fait 4 blessés, dont un plus grièvement touché. Au chapitre des faits divers encore, la circulation a été perturbée tôt ce matin à Saint-Louis. Un bus a été la cible de jets de pierre vers 5h du matin. Il n'y a pas eu de blessés. Des branchages ont également été mis sur la chaussée. La circulation a été coupée le temps de l'intervention des forces de l'ordre. Actualité judiciaire, c'est un procès pour meurtre qui s'est ouvert ce matin et pour 3 jours pour clore la première session d'assises de l'année de la cour d'assises de Nouméa. Dans le box des accusés, depuis ce matin, un homme de 38 ans accusé d'avoir tué sa compagne lors d'une dispute. C'était en juillet 2022 à Nouméa, route de Lanzvata. Compte rendu d'audience, Léana Colombo.
C'est un drame, comme malheureusement on en connaît trop. Un couple se dispute, se sépare et il y a l'altercation de trop. Elle travaille comme juriste au commissariat et veut rentrer en métropole. Lui s'occupe de leurs 2 enfants et souhaite rester en Calédonie. Alors que leur départ est prévu une dizaine de jours plus tard, une dispute éclate. Le conjoint se saisit d'un pichet et frappe à la tête la victime qui perd connaissance. Mais au lieu de directement appeler les secours, l'accusé part se débarrasser des affaires ensanglantées à la déchetterie et chercher ses enfants à l'école. Et c'est en rentrant et constatant que sa compagne baigne toujours dans une mare de sang qu'il finit par appeler les pompiers. Plusieurs plaies au sommet du crâne et une ecchymose à l'œil droit sont constatées. La victime décédera le lendemain au Médipôle d'un traumatisme crânien sévère. À l'issue de l'enquête, l'homme, qui avait un comportement suspect, est confondu par des images de vidéosurveillance et finira par avouer avoir asséné plusieurs coups à sa compagne sous l'emprise de la colère. À l'ouverture de ce procès, l'accusé a déclaré souhaiter dire toute la vérité. « Je dois la vérité à mes enfants qui vont grandir sans leur mère. Je demande aussi pardon à la famille de ma compagne », a-t-il déclaré. La mère de la victime et plusieurs de ses tantes ont fait le déplacement de métropole. Le collectif SOS Violence s'est également constitué partie civile lors de ce procès. Ce matin, c'est le profil de l'accusé qui a été dressé. Végane, dans une relation polyamoureuse par obligation et avec des tendances psychorigides, l'auteur des faits déclare qu'il avait suivi sa compagne en Calédonie pour être avec ses enfants. D'autres témoins seront entendus jusqu'à vendredi et c'est au bout de ces 3 jours que nous connaîtrons le verdict du procès.
Et rappelons que l'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Dans l'actualité politique, rappelons que l'Assemblée nationale a validé la résolution européenne sur l'Azerbaïdjan déposée par le député Nicolas Metzdorf. Dans un communiqué, le député de la première circonscription indique qu'après son adoption en commission des affaires européennes, il y a quelques semaines, sa proposition de résolution européenne contre les ingérences étrangères, notamment celle de l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie, a été définitivement adoptée en commission des lois. La résolution va maintenant être transmise officiellement au gouvernement. Nicolas Metzdorf précise qu'il va continuer à porter cette bataille au Parlement européen pour que cette résolution se traduise en actes. Selon lui, l'Europe doit prendre la mesure du danger et se doter d'un vrai bouclier contre les ingérences étrangères. L'État saisit la justice à la suite de la publication d'un clip vidéo appelant à l'insurrection en Nouvelle-Calédonie. En vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, le haut-commissaire a saisi le procureur de la République afin d'attirer son attention sur un clip vidéo diffusé sur YouTube le 13 mars 2025 et repris le lendemain sur la page du compte Facebook Baku Initiative Group. L'auteur et diffuseur de ce montage vidéo appelle sans détour à la violence et à l'insurrection. Le haut-commissaire qui condamne avec la plus grande fermeté ce contenu incitant à la haine et à la violence.
Radio Rythme Bleu, opinion.
La réponse à notre question d'hier, 98% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que la présidente de la province sud a raison de porter plainte après la nouvelle provocation du groupe Initiative Baku qui diffuse un clip incitant à la violence en Nouvelle-Calédonie. Ils ne sont que 2% à être d'un avis contraire. Voici notre question du jour. Selon vous, Donald Trump et Vladimir Poutine vont-ils réussir à conclure un accord de paix concernant l'Ukraine? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Vous envoyez bien sûr votre réponse au 31-46. Il est 17h53, on marque une première pause dans le journal.
Samedi 29 et dimanche 30 mars à 18h, venez découvrir comment rire et être écolo. Un texte de Rémi DeVos, écrit pour le théâtre, sur les bassines d'eau. Des jeunes investis prêts à en découdre pour toutes les bonnes raisons du monde. Ne ratez pas La Guerre de l'eau, le samedi 29 et dimanche 30 mars à 18h au Théâtre de Lille. Réservation sur ticket.nc. Rendez-vous au Théâtre de Lille.
Savez-vous qu'un lave-vaisselle utilise de l'énergie surtout pour le chauffage de l'eau et peu pour le moteur de la pompe de vidange? Les programmes à faible température comme Eco permettent de diminuer en moyenne de 5% la consommation d'électricité.
Retrouvez toutes les astuces Eco-Conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite info soir, Lionel Sabot.
Au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la question du chômage est évoquée avec les partenaires sociaux. Une réunion a débuté aujourd'hui autour du membre de l'exécutif en charge du travail et de l'emploi, Michael Gineski.
La poursuite des travaux et des discussions sur le chômage dans le contexte de crise économique que nous connaissons depuis les émeutes de 2024, avec autour de la table les responsables des organisations patronales et syndicales pour débattre de plusieurs points autour de Christopher Gigès qui souhaite que l'ensemble des partenaires sociaux s'entendent sur ces questions.
Dans la philosophie qu'on a, on est dans une volonté de reprise d'activité, c'est-à-dire qu'on n'a pas une volonté de maintenir des gens au chômage partiel ou au chômage. Donc on travaille sur des dispositifs d'aide qui permettent une reprise de l'activité économique et qui permettent la création d'emplois. Néanmoins, ça ne suffira pas parce qu'à l'arrêt du chômage partiel, et ça a été annoncé par le ministre des Outre-mer en juin, un certain nombre de personnes vont se retrouver au chômage. Le chômage en Calédonie, c'est 66% du SMG et on ne vit pas avec 66% du SMG. Et donc, on travaille avec les partenaires sociaux sur un dispositif renforcé. Il y a eu des propositions de leur part. Donc, c'est des choses qu'on doit appréhender avec les partenaires sociaux. C'est leur rôle. Et en tout cas, c'est dans cet esprit qu'on s'inscrit d'avoir un dialogue nourri avec les représentants à la fois des entreprises, mais également des salariés.
Et notez que dans la deuxième partie du mois d'avril, le gouvernement souhaite mettre en place une convention fiscale et sociale où seront abordées notamment les questions de l'emploi et des dispositifs liés à l'emploi, la reconversion ou encore l'alternance.
Et dans sa prise de parole, Christopher Gigès a également évoqué le budget de la Nouvelle-Calédonie.
La séance du jour au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a en effet été suspendue pour reprendre demain matin autour du projet de budget 2025. Ce dernier, on le rappelle, doit être adopté avant la fin du mois de mars. Christopher Gigès, également porte-parole de l'exécutif, a indiqué que le gouvernement souhaite prendre le temps nécessaire et réaliser les ajustements adéquats pour que ce budget soit adopté dans les temps.
Le budget, ça prend toujours un peu de temps en Nouvelle-Calédonie. Il devait passer ce matin, mais au vu des urgences, on n'a pas souhaité le reporter à la semaine prochaine, mais on a suspendu la séance du gouvernement, donc qui va reprendre demain matin à 8h. Il y a des ajustements qui doivent être faits. Il y a des personnes qui contestent le fait que ça soit un prêt et non une subvention, donc il y a des discussions à avoir. En tout cas, on a eu ce matin l'accord des plus hautes instances de l'État pour un niveau significatif la première année d'attribution de l'aide. On est sur une enveloppe de 800 millions d'euros la première année pour avoir une enveloppe au niveau de la Nouvelle-Calédonie de 101 milliards et des broutilles. C'est ce qu'on avait demandé justement pour qu'on ait un coup de défibrillateur la première année et que la Calédonie puisse repartir. Donc j'espère que ça passera demain parce qu'on n'a pas le temps d'attendre sur ce budget. Je crois que les Calédoniens sont en attente d'un certain nombre d'investissements publics pour relancer la machine économique. En tout cas, il faut un esprit de responsabilité. Peu importe les idéologies ou les postures politiciennes qu'on peut avoir sur ces sujets, moi j'ai vu des membres du gouvernement qui étaient en responsabilité ce matin, qui demandaient des informations complémentaires et c'est pour ça qu'on a voulu prendre une journée. Je crois qu'une journée pour un budget qui est adopté le plus largement possible, c'est pas beaucoup attendre.
Christopher Gigès, porte-parole du gouvernement. Pour le moment, pas de changement au calendrier. Le budget 2025 de la Nouvelle-Calédonie doit être présenté au Congrès le 28 mars.
Actualité économique, Hervé Tonnerre est d'un optimisme raisonnable concernant la situation de la Nouvelle-Calédonie. Le directeur des Outre-mer et directeur régional du Pacifique de la Banque des Territoires a passé une semaine sur le territoire et il a dressé le bilan de cette visite, Elisabeth Noir.
À cette occasion, il a rencontré les principales institutions calédoniennes et il a signé des partenariats financiers avant de dresser un diagnostic. La Banque des Territoires, c'est en fait l'une des filiales de la Caisse des dépôts et consignations, un établissement public financier national qui dispose d'une partie de l'épargne des Français pour faire des financements préférentiels au profit des territoires. En Nouvelle-Calédonie, elle intervient surtout en matière d'aide pour l'habitat social, mais son rôle s'inscrit surtout aujourd'hui dans le contexte post-émeute et l'une des actions primordiales de la Banque des Territoires dans le contexte actuel, c'est l'aide à la relance économique. Hervé Tonnerre prône surtout la clarté pour prendre des décisions utiles et il prévient que l'inaction serait le pire des dangers, mais des mesures ont déjà été prises par la Banque des Territoires.
De manière très concrète, on a pris déjà des premières mesures normales. Nos clients ou nos partenaires, déjà, leur a accordé ce qu'on appelle des mesures de gestion de dette. C'est bête et méchant, c'est votre banquier, il vous accorde un délai pour payer de votre dette, il réaménage votre dette. C'est le plus simple, c'est naturel, il fallait le faire. On l'a fait tout de suite. Après, on a fait, tout le monde le sait aussi, un prêt exceptionnel au territoire. Un prêt de 50 millions d'euros dès le mois d'août. On a aussi prêté à d'autres collectivités. On est également, justement, avec les bailleurs, en train de regarder, et on est en train de regarder d'autres secteurs. Quand je vous parle de l'industrie nickel ou quand je vous parle de la mise en place d'une foncière, ça serait l'immobilier d'activité. Donc, on intervient. Quand je vous parle de la création d'un fonds qui pourrait accompagner les entreprises innovantes, voilà, on essaie de mobiliser.
Et le directeur outre-mer de la Banque des Territoires veut aussi se montrer optimiste. Un optimisme raisonnable, dit-il.
Un point qui est important, c'est que depuis la crise, on a engagé plus d'argent en Nouvelle-Calédonie qu'avant la crise. Donc c'est plutôt un signal positif, c'est qu'on essaye de parier sur justement tous les enjeux actuels, c'est-à-dire une porte de sortie politique institutionnelle, une porte de sortie sur le vivre ensemble et une porte de sortie sur le modèle économique du territoire. Donc on est plutôt dans les rangs des optimistes raisonnables. Et c'est de parier sur cette intelligence collective qui n'empêche pas, je vous dis, qu'il puisse y avoir des sujets qui ne sont pas les nôtres. Mais nous, on dit, dans notre partie, il nous faut cette visibilité minimale. Si on veut que vous accompagniez, donnez-nous aussi une visibilité sur les sujets qui sont les nôtres. Et là, c'est plus facile pour nous d'y aller que si on était dans une période d'entre-deux où on voit les choses se dégrader et personne ne réagit.
Et dis-moi, après le déclenchement des émeutes, Hervé Tonnerre parle d'un reprofilage, mais il affirme que la relance est possible.
Elle est tout à fait possible. Après, je ne suis pas entièrement persuadé, mais ne serait-ce que parce qu'il y a une baisse de la démographie, que ça sera le même modèle. Moi, j'utilise le terme reprofilage. On partait je m'en souviens dans les documents, il y a quelques années, c'était une Calédonie à 280 000 habitants. Il y avait dans les documents 3 miniers. Est-ce que c'est 3 miniers demain ? Des sujets basiques, hein, factuels, c'est tout ceci qu'il faut, mais de manière objectivée, parce que si on n'objective pas, ou si on est dans le rêve d'un passé idéalisé, on ne fait pas que de responsabilité. Après, on n'est pas en train de dire que le modèle ne peut pas fonctionner. Il faut simplement qu'il soit reprofilé aux données factuelles. C'est pour ça que je dis dans le logement, tout le monde est conscient qu'on ne peut pas construire. Est-ce qu'il ne faut pas, par contre, saisir à bras-le-corps le sujet de la rénovation urbaine ? On pense que si. Donc accepter, y compris de démolir, de réduire l'offre, accepter de faire de la rénovation de qualité, accepter de faire de la politique de la ville pour insérer les populations.
Le directeur de la Banque des Territoires affirme également que beaucoup d'actions immédiates doivent être prises pour relancer la machine. Il a prévu de revenir dans 6 mois pour savoir si l'on est bien dans la bonne dynamique, mais il souligne que le dossier est suivi aussi directement sur le territoire en présentiel. Hervé Tonnerre qui était au micro de Léana Colombo.
Un rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. Comment le secteur du commerce réagit-il à la crise actuelle ? Lui aussi a été fortement victime des émeutes et nous dresserons un état des lieux demain dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu à midi. Jean-François Bonin recevra notamment Ronan Delay, le président du syndicat des commerçants, Laurent Jandot, président de l'association des concessionnaires automobiles et Isabelle Coupé, la directrice générale adjointe de la CCI. La rentrée du conseil municipal junior de Nouméa, les élus participaient à leur première séance de travail de l'année. C'était à l'hôtel de ville, Michael.
Ils ont pu s'initier aux méthodes de mise en place d'un projet pour préparer les actions à organiser durant la mandature. Ils ont également profité d'animations comme autour du hip-hop, de la danse, pour renforcer la cohésion du groupe.
Ce matin, on a fait l'accueil. Quand on est allé dans la salle, on a parlé du CMJ, des projets. On a appris plein de choses. C'était génial.
On a appris plein de techniques. On a appris ce qu'on allait faire pendant cette année.
On a appris à faire du hip-hop. C'était bien. Le prof était très sympa. Et on a eu nos t-shirts. Et aussi, on est allé dans la salle de réunion des gens qui font de la politique ou je sais pas.
J'ai bien aimé le hip-hop et faire des danses avec.
J'ai bien aimé parler au micro dans une salle.
On avait tous des petits micros accrochés à un appareil.
C'était donc une séance de travail ponctuée d'activités ludiques et de moments conviviaux pour impliquer ces jeunes élus dans leur mission. Julie Shannon-Berger, la chef du service vie éducative à la ville de Nouméa.
Dans ce cadre, oui, ils travaillent sur des thématiques pour leur projet à venir, mais aussi on a souhaité qu'ils puissent faire de la cohésion. Et c'est au travers d'un atelier breakdance animé aujourd'hui par Pache qu'ils peuvent en profiter. Ils sont déjà très ludiques, très lucides surtout sur la situation parce qu'ils savent quelles sont les contraintes que la ville peut avoir et que ça peut jouer aussi sur leur mandature. Et on espère de toute façon arriver à faire de belles choses avec eux cette année.
On rappelle que le conseil municipal junior de Nouméa compte 66 élus pour 2 années qui préparent des actions à mettre en place pour la jeunesse nouméenne.
Protéger ses dents, c'est protéger sa santé. C'est le message qui a été relayé toute la journée aux étudiants de l'UNC par l'agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie, Léo Fichou.
Oui, à l'occasion de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire qui aura lieu demain, l'ASSNC a lancé une campagne de sensibilisation à l'importance de la santé bucco-dentaire et à son impact direct sur la santé générale. L'objectif est donc de promouvoir les gestes préventifs et accessibles à tous. Un dépistage était organisé toute la journée à la maison de l'étudiant à l'UNC. Les participants, comme Fernand, ont pu bénéficier d'un examen bucco-dentaire gratuit et de conseils personnalisés de la part de la dentiste Anne-Laurence Goulin.
Moi, je dis toujours, les gencives, elles vous parlent. Si ça saigne, c'est qu'il y a un souci. Donc soit c'est que tu brosses tes dents trop fort, soit ça veut dire qu'il y a trop de microbes qui sont restés sur ta dent. Et ça, tu peux le faire par un brossage plus régulier. Tu peux changer les choses. Ok ?
Ok, merci.
Donc là, je viens de faire un dépistage dentaire, donc de regarder si il y avait présence ou non de caries. Car on répète souvent qu'une carie, ça fait pas forcément mal. C'est aussi pour ça qu'il faut aller voir son dentiste une fois par an. Et d'expliquer la méthode de brossage et surtout pourquoi c'est important de se brosser les dents deux fois par jour.
Et donc là, ça a été compris, le message est passé. Qu'est-ce qu'on retient de ce petit rendez-vous ?
Que je dois aller voir le dentiste. Et que je dois prendre soin de mes dents surtout. Ben après, on n'en a plus, quoi. À notre âge, ça repousse plus.
Le docteur Anne-Laurence Goulin est également responsable du programme santé orale à l'ASSNC. Elle rappelle l'importance de la sensibilisation à l'impact que peut avoir des problèmes dentaires sur l'ensemble du corps.
Ce sont des futurs adultes, des futurs parents qui vont avoir certaines habitudes qui ne sont pas forcément les bonnes. Et donc on est là pour leur expliquer comment faire, parce qu'on se rend compte que la santé aujourd'hui, la santé bucco-dentaire est encore trop souvent négligée. Et le problème, c'est que ça a un réel impact sur des maladies chroniques telles que le diabète, le rhumatisme articulaire aigu ou sur les accouchements prématurés. Et ces maladies-là, ce sont un réel problème de santé publique. Et donc, on est là pour informer la population.
Et la campagne « Protéger ses dents, c'est protéger sa santé » lancée par l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie se poursuit sur le territoire donc jusqu'au 30 mars.
Et puisque l'on parle santé depuis plusieurs mois déjà en raison du manque d'effectifs infirmiers et médicaux, l'offre de soins au centre hospitalier du Nord doit être régulièrement réorganisée. Ainsi, pour la période du 31 mars au 30 avril, la direction du CHN indique qu'à Koumac, le service des urgences restera fermé, mais que les consultations externes réouvriront du lundi au vendredi sur rendez-vous. À Point-d'Imier, le service des urgences restera fermé également et les consultations externes seront assurées sur rendez-vous toujours du lundi au vendredi. Enfin, à Conné, les urgences seront ouvertes 24 heures sur 24. Les soins externes, l'hôpital de jour pour les chimiothérapies ainsi que les consultations et la maternité resteront ouverts durant toute cette période. Et puis en bref, au tribunal administratif, il n'y a pas eu de débat concernant le cas de deux élèves qui n'avaient pas pu s'inscrire dans un établissement scolaire de la province sud à la rentrée. Les deux enfants concernés ont en effet appris hier et aujourd'hui qu'ils étaient finalement bien inscrits. Les parties ayant déposé des référés face à ces décisions de la province sud se sont finalement désistées. Notez toutefois que demain matin, le tribunal administratif devra cette fois se pencher sur le fond du dossier concernant les 10 ans de résidence à justifier pour pouvoir obtenir les bourses et les aides sociales en province sud. Il est 18h07, on marque une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité dans la région Pacifique, le sport et la météo.
Simplifiez-vous la vie avec le paiement en ligne. Pas besoin de créer de compte, rapide et pratique. Allez sur www.cde.nc, cliquez sur espace client et choisissez le paiement express pour régler votre facture d'eau. Calédonienne des eaux, l'eau qui nous unit.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Lionel Sabot.
Et l'actualité dans la région Pacifique. À Port-Moresby, le premier ministre papou James Marape a déclaré que la viabilité économique de l'île de Bougainville, qui est depuis 2002 une région autonome de Papouasie-Nouvelle-Guinée et de ses 30 000 habitants, doit prévaloir sur toute autre considération de quelque ordre que ce soit. Correspondance Jean-Pierre Zajac.
Cet avis de James Marape a été émis lors des discussions relatives à l'avenir politique de Bougainville. « Mon gouvernement, a-t-il insisté, est déterminé à y soutenir le processus de paix. Il a toutefois exhorté les dirigeants de l'île à en considérer l'importance économique parallèlement à toute aspiration d'ordre politique. » James Marape a notamment souligné que 95% du budget de Bougainville est financé soit par Port-Moresby, soit par des donateurs internationaux. Aujourd'hui, a-t-il insisté, l'île ne génère que 5% de son propre budget et sa viabilité à long terme doit être prise en compte dans le cadre de négociations plus larges. Le Premier ministre papou a également reconnu le potentiel de Bougainville en matière de ressources, mais a estimé que ces structures économiques doivent être renforcées avant toute considération d'ordre politique. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Les sports avec du football et J-2 avant la demi-finale des qualifications océaniennes pour la Coupe du Monde. La sélection calédonienne est enfin au complet, Léo.
Et oui, il n'en manquait plus qu'un. Abizer Geno, le milieu de terrain professionnel qui évolue, je le rappelle, au Beitar Jérusalem en Israël. Il a rejoint le groupe dans l'après-midi du côté de Wellington. En milieu de journée, le sélectionneur et son capitaine étaient, eux, en conférence de presse au Sky Stadium, là où se jouera la demi-finale contre Tahiti vendredi. Johan Sidaner est revenu sur les conditions météo particulièrement difficile, bien différente de celle que l'on connaît sur le territoire et que la sélection a connue en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Fidji lors des matchs de poule.
On a l'habitude de s'adapter, on a la capacité, le groupe, l'équipe, la sélection et la population en Nouvelle-Calédonie a cette capacité à s'adapter, donc on va mettre l'accent là-dessus, sur notre capacité à nous adapter à ce nouveau contexte et aux conditions climatiques par rapport à ce qu'on va trouver. Ce qui ressort de ce groupe, de tout donner pour le pays, pour le drapeau, au-delà des fans, il y a la famille qui est restée au pays, qui sera là derrière le groupe, derrière les cagous. Donc le message, c'est que comptez sur nous pour tout donner.
Et la demi-finale des qualifications océaniennes pour la Coupe du Monde entre les Cagous et Tahiti sera donc à suivre vendredi dès 13h, heure de Nouméa. Ce sera sur le site FIFA+.
Un mot de tennis avec deux Calédoniennes engagées sur le circuit ITF en Australie. Caroline Delaunay et Leilani Ipuneso sont dans l'état du Victoria pour disputer le W35 sur gazon de Swan Hill. Leilani s'est qualifiée pour le deuxième tour ce matin. Elle affrontera la tête de série numéro 3 du tournoi demain. En revanche, Caroline, c'est incliné au premier tour devant la tête de série numéro 2. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous ce soir, Nicolas.
Alors. Cette nuit, sur la côte ouest, la nuit sera bien dégagée, avec toutefois des averses résiduelles en soirée sur le nord-ouest. Ailleurs, les passages nuageux portés par l'Alizé seront fréquents. Le long de la côte ouest, au nord de Bouloupari, le vent de secteur est mollira progressivement entre 5 et 10 nœuds, mais restera localement plus fort dans l'axe de certaines vallées. Ailleurs, l'Alizé d'est-sud-est maintiendra entre 15 et 20 nœuds. Les températures minimales chez Chlodron de 22 à 25 degrés. Demain matin, sur l'ouest, un soleil parfois voilé l'emportera. Sur les autres régions, le ciel sera plus nuageux avec des averses éparses. En cours de matinée, des éclaircies se développeront sur le nord-est. Le vent d'est-sud-est restera bien établi, souvent compris entre 15 et 20 nœuds. Voilà, voilà.
Merci Nicolas, à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.